Ici Robert Blondin, bienvenue à l'aventure. Avec nous aujourd'hui, une amie, elle s'appelle Judith Ouimet. C'est une danseuse. Hein? T'as passé ta vie ou à rêver de danse, ou à danser, ou t'as te souvenir de la danse?
J'ai passé ma vie en grande partie à danser, presque toute ma vie. Le début de ma vie. Et jusqu'à mes 48 ans, peut-être.
Mais ça, c'est un rêve que tu avais, ce sentiment d'avoir besoin de danser déjà très jeune, à l'adolescence?
C'est pas comme ça que ça s'est passé du
non.
tout. Parce que moi, et ma sœur, nous allions dans un collège où il y avait, pour ne pas le nommer le Collège Marie-de-France, où il y avait à cette époque-là des cours de danse, de ballet. Mais à l'école, il y avait un studio de danse et puis j'étais là. Et puis ma sœur qui avait un an plus vieux que moi, elle avait 6 ans, moi j'avais 5 ans. J'étais en pré-maternelle, j'imagine, ou maternelle. Et là, elle est passée, c'est dans la famille, c'est resté dans les annales, elle est passée devant le studio de danse, puis elle a dit « Ah, moi j'aimerais ça faire ça ». Et puis comme on avait, toutes les deux, un monsieur qui venait nous chercher, parce que mon père travaillait tard, qui venait nous chercher à l'école, moi j'ai réfléchi, je me dis, Daniel, elle va le faire, mais Judith, il faudrait pas qu'elle aille deux fois chercher les enfants. On va mettre elle aussi dans le cours. Et j'ai été acceptée, même si j'étais petite. Je pense que ma sœur a pas pris de cours plus longtemps qu'un an, pas plus que ça. Mais moi, mon tempérament, j'ai aimé ça, d'après mon tempérament, parce que c'est ça que ça prend, la danse classique. Quand c'est quelque chose qui t'ennuie, que tu finis par la répétition t'ennuie, qu'on te demande tout le temps de répéter ou de refaire le mouvement, parce qu'on on sous-entend que t'es pas assez bonne, que t'es pas assez bien, il faut répéter le truc. Mais moi, ça me dérangeait pas. Ma sœur, complètement. Non, non. Elle était assez bonne la première fois, puis si vous êtes pas content, ça devait être comme ça que ça se passait dans sa tête. Après, quand on connaît un peu la dame. Alors, finalement...
Ouais, la dame, on va dire tout de suite, c'est Danielle Ouimet, c'est la Danielle Ouimet.
Oui, bon, c'est okay. Ça. Alors, donc, moi, j'ai persisté, tout simplement. Et cette enseignante, Aline Legris, qui était une précurseur en danse, parce qu'à Montréal, il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. C'était des années 50-quelques, hein, de mi-50. Eh bien, voilà, elle enseignait. Et sa maman, qui avait tous les cheveux tout blancs, jouait au piano, parce qu'il faut toujours une pianiste ou un pianiste pour accompagner la danse classique. Et puis voilà, j'ai continué, je n'ai jamais cessé de danser. À 14 ans, j'ai été invitée à auditionner à l'école supérieure de danse que Mme Chiriaev, Lumina Chiriaev, avait fondée. Et j'ai été invitée à aller auditionner. Et puis, j'ai été acceptée. Comme on peut appeler ça un petit rat, c'est pour Paris, mais c'est à peu près le même principe ici. Et puis, j'ai vraiment eu des études en danse payées. C'était des bourses, des boursières, et puis tout ça, puis t'avances tranquillement. Et puis, vers 18 ans, moi, j'ai été acceptée aussi dans la compagnie.
On parle des grands ballets, là.
Parce que, évidemment, l'école supérieure formait les danseurs de la compagnie des Grands Ballets canadiens. Et puis, bon, j'ai eu... Je peux raconter énormément de choses sur
juste
cette époque-là.
Juste une question avant, Judith. La danse classique, ça se fait avec de la musique classique. Et t'étais intéressé si jeune par la musique classique, plus que de la musique pop ou populaire ou jazz qu'il y avait à l'époque?
C'est une musique qui nous accompagne constamment. Je connais toute la musique classique sans savoir. Ils ne disent pas. Maintenant, ça se fait. À l'époque, on entendait... C'est des jolies musiques. Puis le piano, c'est merveilleux. Alors, tout ça, fait que ça t'imprégnait. Je m'en souviens par cœur. Je connais toutes les musiques classiques sans savoir ce que c'est. Mais maintenant, ils le font. Dans les grandes écoles, en Europe, quand le pianiste démarre sur une musique, il se lève et dit « Vous allez entendre tel de qui? De quel auteur? » Et puis tout ça.
OK. T'arrives voilà. Donc, tu es accepté au Grand Ballet?
Je suis accepté au Grand Ballet. À cette époque-là, c'était la grande époque. C'était Fernand Nau, chorégraphe. Madame Chiriaef était reine et maîtresse.
C'était l'impératrice.
L'impératrice. Cette femme a marqué ma vie, comme elle a marqué la vie de tout le monde, tous ceux qui étaient les petits danseurs, les grands danseurs. Elle avait une idée absolument arrêtée sur ce que tu valais, dans quel endroit tu devais pas, dans quelle direction tu devais aller. Elle s'occupait de tous et chacun.
Elle avait une idée arrêtée sur tout.
Oui.
Tu as mentionné Fernand Nau pour des gens qui ne le savent pas, là, qui vont à chaque année avec les petits-enfants voir le spectacle de Noël. Hein.
Casse-Noisette, j'ai fait partie du tout premier Casse-Noisette. J'ai fait partie du tout premier Carmina Burana qu'on vient de présenter à Montréal en ce moment, tout dernièrement, par un autre chorégraphe, malheureusement. Je me rendais pas compte que c'était incroyable, mais c'était ma vie. J'avais 14 ans, j'ai dansé dans la salle Wilfrid Pelletier, sur la scène, et je me souviens très bien qu'entre les répétitions, entre les prises de son, entre les éclairages et tout ça, je m'assoyais, j'allais le rideau était ouvert, je m'assoyais, puis je m'imprégnais de cette... Il y a une atmosphère dans cette salle qui était toute neuve, qui venait d'ouvrir. C'était... J'étais consciente.
Et c'est toujours la chorégraphie de Fernand Nau. Nous, qu'on danse encore de nos jours. Hein, c'est la même.
Ouais, ils ont changé les costumes.
Oui, mais il était peut-être temps, là. Mais...
Oui, j'ai dansé. Alors, ce qui était important et très intéressant à propos de ce ballet, c'est que ça permet à toute une génération de jeunes et de plus vieux et de danser. Les tout-petits dansent les souris, les rats, il y a des moutons, il y a tout ça. Et puis, les anges, on peut évoluer à travers le temps. Alors, si tu commences à 14 ans, tu commences par là, et puis... Quand tu as 18 ans, mais tu danses la reine dans les flocons de neige, et là, faut vraiment avoir les pointes, c'est le grand classique.
Alors, quand tu arrives au Grand Ballet, tu passes plusieurs années au Grand Ballet canadien, c'est quoi la vie d'une ballerine? C'est pas la même vie que n'importe qui, ça, une vie de ballerine.
Non, absolument pas. Ça a pris tout mon temps. C'est pas compliqué. Je dansais avant d'entrer... à l'école supérieure, vers 14 ans, en 12-14 ans, je prenais 15 cours par semaine. Je prenais 3 cours par jour. Je partais de l'école parce que là, on avait été transféré au collège français qui était près de mon studio de danse sur l'avenue du Parc et Laurier. Eh bien, je marchais, je prenais demi-sandwich, j'allais à mon cours le midi, je repartais avec mon autre demi-sandwich, puis j'allais à mes cours l'après-midi, et je repartais de là, et je restais dans le quartier, parce que on habitait en cycle, et puis je prenais deux cours, un cours, deux... Et la fin de semaine, pareil.
C'est une passion totale, là.
Je sais pas pourquoi, c'était, oui, une passion totale, mais c'est surtout que la danse... Oui, la danse classique demande ça. Si tu veux... évoluer, si tu veux être bonne, c'est ça, puis c'est la règle.
C'est aussi des difficultés. C'est une difficulté pour le corps parce que c'est une discipline extrêmement exigeante. Et il y a aussi une relation de pouvoir avec la directrice, avec les chorégraphes. Parle-nous un peu des difficultés de la vie de ballerine. On parlera des beaux moments après.
C'est évident que ça fait en sorte que tu peux développer un sentiment de culpabilité assez constant. C'est comme une constance dans ta vie. Parce que t'es jamais assez bonne. C'est-tu bête? Tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver un jour? Oui, tu y arrives un jour, mais tu sais pas quand. Tu sais qu'il faut que tu passes par ça et que t'as un professeur qui porte un jugement de valeur sur toi, sur ta manière d'être, sur tes capacités. Et c'est très difficile. Oui, c'est comme ça. Et j'ai parlé avec un papa d'une jeune fille d'hier soir, et c'est ça qui est arrivé. Je lui disais, c'est désolant, oui, c'est vrai que c'est désolant. Puis, oh, ma fille était bonne. Je dis, oui, c'est vrai. Puis elle sentait pas toujours bonne. Mais c'est ça. Mais quand tu passes à travers ça, t'as tous les courages après. Il y a rien qui t'arrête.
En dehors de la danse, t'as oui, acquis t'as, ça
forme,
pour la vie en
forme,
entier. Ouais.
La rigueur que ça demande.
La relation interpersonnelle, de relation de pouvoir, parce que c'est des relations de pouvoir, en tout cas à l'époque c'était très très fort. Là.
Mademoiselle Legris était assez gentille. Dans les cours où tu étais plus demandant, c'était plus demandant, plus gros, plus grand cours, là, enfin, où c'était plus difficile, les difficultés étaient accrues, avec les professeurs. Oh, tu pleures beaucoup. c'est vraiment... Il y a beaucoup de peine. T'as de la peine, t'accumules de la peine. Ah, je l'ai pas eu.
Tu te fais engueuler à tout bout de champ.
Tu te fais toujours sous-évaluer ou évaluer. T'es jamais... Quand on te félicite, là, mais c'est comme tous les métiers d'art, je pense, où il y a un coup. La danse, je pense qu'il y a un des pires. Effectivement. Le théâtre, la musique...
Surtout que tu ne peux pas envisager de le faire pendant 60 ans, parce que le corps ne résistera jamais, là.
Maximum à 50 ans, tu t'arrêtes. 40 maintenant. Enfin, c'est 40.
As-tu eu des beaux moments quand même, là?
J'ai eu de la chance d'aller étudier en Europe, à Paris. J'ai eu des bourses pour aller à Paris. Je suis revenue, j'étais encore meilleure. J'ai eu ensuite des auditions. On m'a permis d'aller auditionner dans d'autres compagnies de danse. Et puis, j'ai dansé dans deux autres compagnies où là, j'ai vraiment compris que le milieu de la danse classique, c'était ardu, c'était difficile sur le moral à 50 %. Mais là, j'ai changé de cap et puis on m'a permis d'auditionner pour les Feux Follets, qui était une compagnie de danse actuelle, enfin, de danse de la claquette, la gigue et puis tout ça.
Il y avait du
tous
folklorique là-dedans.
M'excuse, le mot m'échappe, oui, c'est ça, folklorique. Michel Cartier était le directeur, le fondateur de cette compagnie. Et ça aussi, ça m'a vraiment plu. J'ai fait des tournées extraordinaires. Cette sorte de danse-là était très facile pour moi parce que c'était tellement plus simple et beaucoup plus facile parce que quand tu as fait de la danse classique, tu peux tout faire.
Étais-tu frustrée de ne pas être devenue une prima ballerina, une grande vedette de la danse classique?
Non. Non, parce que j'étais plus petite que la moyenne. Je n'aurais pu qu'être dans le corps de ballet de par ma grandeur. Première danseuse, c'était... Tu le comprends assez vite. T'es pas là. Alors, première danseuse, oui, peut-être, mais j'étais pas frustrée, non. Je me rappelle pas de ça.
C'est pas un milieu avec beaucoup d'intrigues aussi, là?
Non. Ça dépend qui sont tes amis. Et ça dépend avec qui tu ferais, je pense. Non, j'étais peut-être assez nouille, mais j'avais des amis. Et puis, je me suis fait qui sont toujours mes amis. Et c'est un... J'ai, j'ai, ça, tout est correct. Non, j'ai pas eu de problème. Madame Chirieff était la grande prêtresse. Alors finalement, il y avait qu'elle, et puis elle mettait tout le monde en... Je dis que tout le monde savait où il s'en allait. Il n'y avait pas de mishmash.
Et chez les Feux Follets, donc, des tournées intéressantes.
Effectivement. Alors, ces tournées-là intéressantes, j'ai rencontré à cette époque-là Tijan Carignan. C'est un violonneux extraordinaire.
Le chauffeur de taxi le plus intéressant qu'on a jamais rencontré.
Et qui jouait, qui était incroyable.
Ah, c'était extraordinaire.
Et puis, il était là. Et puis, Catherine Lara, elle était violoniste. Elle était dans l'orchestre qui nous accompagnait. Quelques Québécois qui étaient avec nous, et puis là-bas, on comblait les autres musiciens. Et puis, j'ai rencontré Catherine. C'est devenu aussi une connaissance, une amie, vraiment. Ensuite, c'était une vie extraordinaire dans ce sens-là. Les Feux Follets, j'ai adoré ça. Malheureusement, la compagnie s'est terminée. Je ne sais plus, Monsieur Cartier a lâché de prise, plus de subventions, ça s'est arrêté. Et là, j'ai eu une autre étape de ma vie qui est une des meilleures étapes de ma vie ensuite. C'était les Ballets Jazz de Montréal qui venaient d'être fondés. Là aussi, j'ai été acceptée dans toute première année. Et on était une quinzaine de danseurs qui venaient majoritairement de la danse classique et aussi des Feux Follets.
Tu avais plus ta place parce que tu étais plus petite.
Oui.
C'est moins un problème. Là,
tu peux danser de façon soliste. Tu peux être soliste parce que, premièrement, ça demandait d'avoir une formation très, très forte en danse classique. Et puis, je l'avais.
Quand un jour tu as dû arrêter la danse, tu ne devais pas être très heureuse de la chose?
J'ai dû l'arrêter par la force des choses. Il y a eu un événement assez tragique, mais il y a eu un moment donné, au bout de 5 ans dans les ballets jazz, je ne voulais plus faire de tournée. J'en pouvais plus d'entrer dans un hôtel, dormir, surlever le lendemain, aller au théâtre. Tu ne voyais que ça. L'autobus, toutes les villes. C'est bien effrayant, se plaindre de ça, hein. Mais c'est ça, c'est de ça. J'en pouvais plus. Et je voulais ma vie privée. J'en avais pas. J'avais pas de vie privée. J'avais pas d'amoureux. J'avais rien. Je voulais rencontrer un compagnon de vie, puis je voulais faire des enfants. Je voulais avoir des enfants. Alors, j'ai lâché ça, puis j'ai dit, bon, je reviens à Montréal. Et là, j'ai fait de la danse, mais surtout à la télévision. J'ai fait le Lautrec Show.
Avec Eva von Gunschi?
Non. J'étais danseuse à gogo, moi.
Ah bon?
Oui, le Lautrec Show, mais c'est pas rien. C'était quand
oh
même...
Oh non, le Lautrec Show?
Oui.
T'étais danseuse à gogo, là.
Les premières années du Lautrec Show, il y avait 6 ou 7 filles. Après ça, il y a eu 4 filles. Et ensuite, ils sont descendus à 2. Ils en avaient gardé une sur les 8 autres. Et puis, René Hébert, qui est ma grande amie encore, et ils m'ont engagée. On avait toutes les deux les cheveux à...
Aux fesses.
Oui, et puis on était belles à croquer. Et puis j'ai dansé pendant 2 ans et demi dans cette émission. Ça a été extraordinaire. J'étais libre. J'étais libre de mes mouvements. J'étais heureuse. Tout le monde était... C'était la télévision. Je faisais des sous. Et puis je fréquentais un autre milieu. Hein? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment... ce que ça a fait pour moi, c'est que ça m'a fait connaître. Judith Ouimet danse à la télévision. Alors là, j'ai dit, bon, ça y est, j'ouvre une école de ballet jazz, parce que c'était la grande mode. Mais ça a marché. Parce que Judith Ouimet à la télévision, bien, on allait à son école. J'avais fait ma propre publicité, j'étais ben à mode. Thank you.
Judith, oui, bien, on va te retrouver dans ta vie privée. On va régler une question tout de suite. Judith Ouimet, c'est la sœur de Daniel Ouimet.
Oui.
Bon, comment on vit quand on est presque un petit peu dans l'ombre de cette sœur qui a pris tant de place sur les tréteaux populaires au Québec, là?
comment dire? Je vais pas parler en mal de ma sœur.
Ben non.
Certainement pas. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, on vit dans l'ombre de Daniel Ouimet. On peut pas dire le contraire. C'est comme ça. Elle est née comme ça, ma sœur. Elle était la première. Elle a été adorée comme tous les enfants qui sont les premiers. Moi aussi, j'ai été très aimée, mais j'étais malade quand je suis née. Maman était tombée. Ma sœur avait 1 an et 2 mois, 3 mois exactement. Plutôt 2, oui, c'est ça. Et ma mère, quand elle me portait, elle est rendue à 7 mois enceinte, elle est tombée. J'avais un frère jumeau. Et là, lui a pris le coup quand elle est tombée par terre. Et moi, j'ai survécu, mais de justesse. Parce que j'ai failli mourir. Mon frère nous empoisonnait. Je suis née... Oui, c'est ça, il était mort. Alors, il empoisonnait et ma mère et moi. Et puis là, ils nous ont rentrés à l'hôpital. Et là, ils ont décidé d'accoucher maman. Moi, j'étais un bébé prématuré. Et ils avaient décidé, il paraît, que moi, s'ils avaient sauvé un ou l'autre, c'était ma mère, parce qu'elle avait déjà un enfant. Alors, je ne sais pas comment ça s'est... Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que les enfants le ressentent.
Je ne sais pas, peut-être.
On sent... En tout cas, premièrement, mon frère est décédé, est tombé sur... est mort sur moi, puis il n'était plus là. Et là, on jugeait peut-être que c'était mieux de me laisser mourir. Je ne sais pas comment... J'imagine que ça a dû me marquer, pas plus que ça, mais bon. Mais quand moi, je suis rentrée à la maison, parce que j'ai survécu, je suis une battante, et maman aussi. Et le médecin, c'était génial, c'était un cas sur 1000 qui sauvait la mère et l'enfant à cette époque-là. Mon frère est resté dans un pot de formol pendant des années à l'hôpital St. Mary's pour démontrer... C'est comme un miracle qu'il avait accompli. Alors, c'est vraiment spécial. Quand je suis rentrée à la maison, alors j'arrive à parler de ma sœur, on peut imaginer qu'elle, qui avait déjà un tempérament très fort, elle, quand elle voulait quelque chose, c'est comme des enfants qui font le poisson à terre, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui roulent par terre parce qu'ils veulent quelque chose, ou je veux ça et je veux ça, et elle avait...
Elle était comme ça.
Elle a toujours été comme ça. Elle voulait des choses, puis elle les désirait fortement. Mais moi, quand je suis arrivée, ils ont dû lui dire, « Ben là, tu fais attention, t'as une sœur maintenant. Puis fais attention, ta sœur, elle est petite, elle fait pitié ou je sais pas quoi. » Moi, j'étais un petit bébé malade, et puis elle, ben elle avait plus autant d'attention, puisque il fallait que ma mère m'en donne beaucoup. Elle n'a pas dû aimer ça. Mais ça, c'est dans ma tête. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas s'en souvenir. C'est complètement... Je peux juste analyser la situation. Alors, quoi qu'il en soit, elle a toujours été comme ça et elle a toujours fait une vie beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'ai toujours écouté la consigne, fait ce qu'on me disait de faire... Et je dépassais pas les bornes. Je suis une bonne petite fille. Ma mère me l'a dit un jour. Elle dit, pourquoi tu me demandes quelque chose rapidement? Puis elle dit, comment ça fait que t'as jamais été comme ça, toi? T'as toujours écouté ce qu'on te disait. Et puis ma sœur, c'était tout le contraire. Alors, deux tempéraments comme ça, ben elle m'a toujours peut-être jugée un peu niaiseuse, tu sais. Et bon, si tu veux ça, va le chercher. Je dis, oui, mais je vais demander. Non, elle, c'est, j'y vais. Alors, ma sœur et Daniel Ouimet, parce qu'elle était comme ça. Mais moi, je trouve ça fabuleux. Mais tu n'es comme ça, tu le fais pas, tu l'es ou tu l'es pas. Hein,
on t'a vécu dans son ombre, mais pas très douloureusement, ou il y a des moments
non,
plus difficiles?
Non, moi, j'avais toutes mes études. Moi, je m'occupais de mes affaires. Je la voyais pas évoluer. J'ai jamais compris tout ce qu'elle a fait. Je m'en suis même pas informée.
Elle est devenue une vedette dans un film qui s'appelait Valérie. Et comment s'appelle ta fille?
Elle s'appelle Valérie, mais ça, c'est mon mari qui l'a décidé. Oui. Alors, donc, non, ma sœur, je faisais ma vie à moi parce que c'était, comme je le dis, c'était énorme, les études que j'avais à faire. Et puis, elle faisait sa vie, puis elle l'a faite à sa manière et à sa façon. Puis elle a été très heureuse aussi. Évidemment, quand tu fonces dans des trucs, des fois, tu peux te faire, tu peux te frapper un mur, là, mais... Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Moi, j'ai toujours fait attention. Toujours.
On va rêver un peu à ta vie amoureuse. Hein, t'es adolescente, toi aussi, tu commences à voir les garçons. Mais t'évolues dans un milieu des ballets où il n'y a pas trop de machos dans ce monde-là.
Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de garçons. C'est pour ça que j'ai voulu cesser les tournées aussi. C'était des garçons qui aimaient plutôt les autres garçons, effectivement, oui. C'était assez... Mais c'était entendu comme ça.
Non, mais c'était comme ça, mais pour une fille qui veut s'ouvrir à la
pas.
Vie...
Il n'y avait rien.
Ça n'allait pas fort.
Non, ça n'allait pas fort.
C'est arrivé comment dans ta vie, les premiers amours?
À l'école, là, au collège français, c'était celui qui venait, il était en versification, lui, ou en... Et puis il venait nous garder. Alors je le trouvais très, très, très beau. Ce cher Robert, et puis il s'appelait Robert, et puis il est devenu un architecte et tout ça. Et puis bon, ça a été mon premier amoureux, il marchait de l'école, c'était un homme extrêmement intéressant. Je pense que toute ma vie, j'ai aimé des hommes intelligents et très instruits. J'ai jamais demandé, j'ai jamais cherché, mais c'est ça qui m'intéressait. Il y avait un côté artiste chez ces hommes-là. Ils ont toujours été comme ça. Et des hommes qui savaient s'exprimer, qui avaient une personnalité, qui étaient éduqués. Je peux rien dire.
Je peux pas ne pas te poser la question. Tu me parles de ta vie amoureuse et tout de suite, tu es au pluriel. Tu parles des hommes de ta vie.
Oui.
C'est pas arrivé à tout le monde. Il y a du monde qui en choisit ça pour longtemps. Toi,
j'aurais aimé ça. Mais...
T'as échantillonné pas mal.
Oui, c'est ça. Mais j'aurais voulu
autre
chose.
Oui, c'est ça.
mais c'est pas. Oui, c'est ça. J'ai pas. Comment expliquer ça? C'est une longue, longue histoire. Une longue série. Je vais aller par les plus marquants. Donc, Robert le premier. Ça s'est arrêté assez rapidement parce que évidemment c'était pas important pour lui, quand on est jeune, on a les émotions, les sentiments très exacerbés, hein. Alors j'en ai-tu écrit des poèmes puis des vers pour mes petits amoureux, mais ça s'est jamais rien passé. Mais celui qui m'a vraiment marqué et que j'ai aimé, et puis sur qui je suis tombée par un pur hasard, j'étais justement dans le Lautrec Show. J'ai dansé à la télévision, aussi dans d'autres émissions. Et ce cher, pour ne pas le nommer, Stéphane Venn, était dans les environs. Il connaissait très bien Donald Lautrec, c'était un ami à lui. Et je suis tombée passionnément amoureuse de lui. Ça a duré 7 ans. Mais... Étant donné le fait que, à toutes les fois, fouille-moi pourquoi, Stéphane a toujours eu 2 femmes dans sa vie à la fois. Plus maintenant, mais ça y a pris du temps à comprendre, j'imagine. Mais ce cher homme, ça n'a pas dû être le bonheur pour lui tout le temps. Mais c'était comme ça, ça arrivait comme ça. Alors, j'ai dû laisser tomber. Et puis, ça m'a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, de partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu chercher un compagnon de vie stable, évidemment. Et je cherchais toujours à avoir un enfant, parce que des enfants, moi, une famille, fonder une famille, ça m'était extrêmement important. Pour moi, c'était un accomplissement et devenir En fait, renaître, devenir quelqu'un, passer à une étape essentielle, la maternité, être une mère, pour moi, c'était un statut absolu que je désirais. Alors, je venais de fonder, j'ai ensuite, après avoir laissé la télévision, après avoir laissé les compagnies, je venais de fonder une école que j'ai dirigée à Laval pendant plusieurs années. Et là, j'ai rencontré mon mari. Je l'ai rencontré, mais bizarrement, je le connaissais déjà. ça a été fortuit comme une rencontre, mais cela dit, c'était le fils de Ludmila Chiriaev. Alors, je le connaissais déjà, je l'avais déjà rencontré. C'était mon autre famille, c'était ma famille, la danse. On est une grande famille. Alors, ça a été une belle rencontre et puis on a décidé de se marier. J'ai eu une magnifique fille. Nous avons eu une magnifique fille que Gleb, après 200 recherches de noms, il n'était jamais... Non, pas ce nom-là, pas ce nom-là, pas ce nom-là. Et un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dirais de Valérie? Je ne peux pas croire qu'il va dire oui, parce que le fameux film Valérie avait assez fait de vagues.
Avec
le...
ta sœur, en oui. plus,
oui. Bien, il a dit oui, c'est ça qu'il faut. Et ça lui va à ravir. Elle est née, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis née quand ma fille est née. Une autre étape absolue dans ma vie. Et pas une seule seconde, je n'ai pas été heureuse grâce à ça depuis ce temps-là.
Et pourquoi ce mariage n'a pas duré?
On peut dire que les enfants de Mme Chiriaev, elle en a eu 5, avec 2 maris, ont été... Elle en a pris un soin énorme, elle a fait tout ce qu'il fallait, mais faire les grands ballets canadiens, les diriger toutes les écoles qu'elle dirigeait, tous les enfants qu'elle avait sous sa garde, tout ça, et élever ses enfants, ça fait des enfants pour qui les grands ballets, c'était pas vraiment leur soupe, leur tasse de thé, comme on dit. Ils en avaient un peu assez, mais elle a fait ce qu'elle avait. Elle a fait tellement pour tout le monde.
Mais ça a hypothéqué ton mariage de quelle façon?
Mais c'était des enfants pour qui la vie n'avait pas été facile et puis qui n'étaient pas toujours heureux.
Oui.
Alors, ça faisait...
Des tendances dépressives un peu.
Ça devenait un petit peu difficile. Puis pour moi, ben pas rendre quelqu'un heureux puis pas y trouver son compte... Ni pour moi, ni pour lui, ça valait plus la peine, malheureusement pour la petite. Mais finalement, tout s'est bien arrangé et on s'est entendu. J'ai plus pris la Valérie que parce que j'ai vraiment... j'avais une stabilité. Lui, il devait changer de travail, il devait changer de maison, tout ça. Je suis restée dans la maison et puis j'ai continué ma vie avec Valérie.
Je voudrais aborder un sujet avec toi qui est la séduction. Quand on est danseuse, il y a une partie séduction, c'est pas la seule, mais c'est important. Une jeune femme belle, tu danses au Lautrec Show, etc., il y a une partie séduction importante. As-tu pu faire la part des choses dans ta vie entre la séduction et les amours vrais?
C'est une question extrêmement importante, effectivement. Je peux pas le nier. J'étais une très belle fille. Ma sœur, Danielle, ma mère était belle, mon père était bon. On était toute une belle famille, du beau monde. On est comme ça, c'est pas de notre faute. Et j'étais... La danse, évidemment, mon corps, moi, je sais le en jouer. Je sais danser, je sais bouger, mais je l'utilise. J'ai jamais utilisé dans ce sens-là. C'est que j'ai attiré beaucoup de séducteurs, et c'est ça qui était difficile pour moi, c'est de reconnaître est-ce qu'il me crouse ou il veut me marier. C'est un peu énorme ce que je dis, mais c'est ça.
Oui, entre le désir et vraiment l'amour vrai, il y a quand même une marge. Là.
J'ai eu beaucoup de demandes et peu d'élus. Mais dans le sens j'ai pas pu. J'ai toujours recherché un homme qui, pour qui j'étais quelqu'un qui voulait dans sa vie et pas.
Est-ce que ça t'a rendu cette facilité à la séduction parce que tu avais les outils physiques pour? Est-ce que ça t'a rendu méfiante vis-à-vis des hommes?
La méfiance, méfiance peut-être, mais je n'ai pu que constater que à toute et de toute évidence, on ne peut pas avoir confiance très souvent aux hommes. Je l'ai pas inventé, là, c'est pas une sortie de mon esprit. Effectivement, c'est difficile de trouver un compagnon de vie qui va s'engager. On leur en veut pas, mais accepter que ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'avais pas envie d'être un one night stand. Ça me tentait pas.
Est-ce que tu as connu beaucoup de déceptions à cause de cette situation?
Quelques-unes, oui. Surtout la première fois. Quand on aime vraiment profondément puis que ça fonctionne pas, ça, ça te marque à vie. Ensuite, quand j'ai arrêté de pleurer au bout de 6 mois, ben là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Soit j'en crève ou soit je revis. Puis alors, j'ai recommencé à espérer puis à reprendre ma vie en main. Je me suis fait un bon copain et puis j'ai élevé ma fille chaque de mon bord. Puis j'ai été très heureuse à bien des égards. C'est surtout qu'à ce moment-là, j'ai pu changer de cap de vie. La danse, comme on disait tout à l'heure, ça doit s'arrêter éventuellement. Et qu'est-ce qu'on fait après? Alors, j'ai trouvé une autre porte qui s'est ouverte.
Allons-y.
Quand je dansais au Lautrec Show, c'est une belle histoire. Il y a un jeune homme qui vient pour chanter. À l'époque, il y avait des agents. Hein? L'agent arrivait avec son artiste et puis il mettait là. Puis il y avait un spectacle pour promouvoir la chanson et puis que le jeune homme se fasse connaître. Il s'appelait Pierre Mercier. Inconnu au bataillon, qui c'est Pierre Mercier? C'est un beau jeune homme, puis qui jouait de la guitare, puis qui c'est sa première toune. Puis là, il était sa première fois qu'il venait à la télévision, puis sa première fois qu'il chantait, puis il était pas gros dans ses culottes, mettons. Là, il dit... il avait un petit peu peur. Il se demandait si ça allait bien. Tout le monde est parti dîner après la répétition, son agent également. Je suis la seule sur place et lui. Puis là, je le vois, il est complètement... Les yeux, il est rouge, et je sais pas. Je dis, mais ça va? Alors, il me dit, je sais pas, moi. Il dit, mon agent est parti, puis je sais pas ce que ça a donné ce matin. Je dis, qu'est-ce que... Puis j'ai probablement dû l'encourager. Sûrement. Il paraît que je lui ai dit quelque chose de très gentil. Et puis, je suis partie. Toutes les années ont passé, je me retrouve à devoir faire vivre en grande partie ma fille, à me loger ailleurs qu'à la maison, à travailler sur d'autres choses parce que la danse, j'ai dû arrêter de danser parce que j'avais eu un accident de ski et j'ai cessé la danse complètement à ce moment-là. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la vie. Et ce que ça a fait, eh bien, c'est que j'ai eu un contact d'un musicien qui me dit, un technicien de studio, musicien, qui me dit, peux-tu enregistrer quelque chose pour moi dans un magnifique studio à Longueuil? Je dis, oui, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais c'est pas grave, tu peux le faire. Il dit, écoute, ça va m'aider. Puis on ne sait jamais. J'enregistre ça et là, j'ai compris que d'être derrière un micro et puis d'avoir des écouteurs sur les oreilles dans ce magnifique studio, j'étais à ma place. Il dit, mais t'as une très belle voix. Il dit, ça va très bien. Ce que t'as fait, c'était parfait. 2 semaines plus tard, entre dans ce studio Pierre Mercier, qui est devenu un réalisateur dans cette nouvelle station de radio, de télé qui venait d'ouvrir, TQS. Il dit, c'est qui la fille qui vient de parler sur ton tape? Ben, c'est Judith Ouimet, mais je la connais. Il dit, un jour, elle m'a aidé, elle. Il dit, on est à la recherche de voix à TQS, on vient d'ouvrir. Il dit, je l'engage. Et toute ma vie
ça
est repartie.
Ça venait de s'ouvrir.
Ouais.
Tu as même été pendant des années la voix dans le métro?
Oui. Alors, j'ai été 5-6 ans à TQS, la voix maison. J'ai été la voix... Ensuite, ça m'a donné la voix dans... J'ai été la voix du métro pendant 10 ans. J'ai fait de la messagerie vocale, ce qui existe moins, mais qu'il y en a encore. Je répondais à presque tout le monde à Montréal, dans tous les bureaux, à l'église Notre-Dame, dans les hôpitaux. On peut encore m'entendre. J'ai eu un autre métier qui...
Que tu exerces toujours.
Sur lequel, hein? Oui, avec lequel je travaille encore. Parce que la voix, si ça ne vieillit pas trop, on peut continuer.
Judith Ouimet, tu as trouvé un nouveau métier? As-tu trouvé un compagnon pour finir tes jours?
Oui. Le dernier, mais non le moindre. Oui. J'ai rencontré cet homme qui, contre toute attente, enfin désirait s'engager correctement et qui... Et un homme stable, qui pour qui la stabilité n'ennuyait pas, et pour qui j'étais quelqu'un. Enfin, on se demande toujours est-ce que je vais lui plaire, parce qu'à un certain âge, on a passé l'âge. Ça va-tu marcher encore? Est-ce que je vais plaire encore à un homme? Eh bien, oui, je veux dire, dans la première seconde, on s'est regardé. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien sortir avec toi. J'ai dit oui. Et puis, on est ensemble depuis bientôt 9 ans. Enfin, c'est le... Ma vie a changé.
On va arrêter de parler de toi, puis on va parler des autres. T'as une fille, donc c'est une autre génération. Tu vois aller la génération. D'abord, comment tu juges? Est-ce que tu suis encore le milieu de la danse, toi qui n'en fais plus partie comme danseuse?
Oui, je suis sur le conseil d'administration de l'École supérieure de danse du Québec que Mme Chirieff a fondée, qui existe toujours. Je suis là depuis 13 ans. J'ai compté ça hier. Là, c'est 13 ans de temps. Et je suis comme... un phare pour eux. Je suis leur mémoire. Je peux leur parler de bien des choses qui se sont passées dans cette école, qui a fondé quoi, comment l'évolution des choses. Ça m'intéresse énormément, effectivement. Donc, ça, c'est un milieu que je connais bien et que je ne voudrais surtout pas quitter.
Comment ça se passe dans le milieu de la danse? Est-ce que ça évolue à ton goût? T'aimes ça?
Il y a eu une scission absolue entre la danse classique à un moment donné. Martha Graham et tout ça, là, ça, c'est dans les années... Quand même, ça a commencé très tôt, mais ça... Dans les années 50 aussi. Mais c'est la danse contemporaine qui est arrivée à Montréal par la porte de derrière et puis qui est rentrée. Martine Époque a fondé sa compagnie, Nouvelle Ère. Madame Chirieff l'a aidée, d'ailleurs. Et puis, a évolué, a trouvé des danseurs. Et ça fait en sorte que la danse contemporaine, plus actuelle, existe à Montréal. La danse classique existe toujours, mais c'est un public... C'est un certain public.
Est-ce que c'est pas un public qui se réduit en peau de chagrin un peu?
C'est évidemment de la... C'est comme l'opéra, hein? C'est tout le même... C'est la musique classique, l'opéra. Ce sont des... C'est des spectacles. Est-ce que... Oui, il y a des gens, il y a un public, il y a de l'auditoire, mais il faut toujours aller les gagner, effectivement. Quand j'ai vu que je pouvais m'exprimer devant un micro, j'ai un jour eu cette drôle de proposition. Je travaillais comme recherchiste pour M. Serge Bélair. Et j'étais à TQS à l'époque, et puis ma sœur me dit, « La recherchiste de Serge n'est pas là, peux-tu aller la remplacer quelque temps? » J'ai fait ça 3 mois de temps. Au bout de 3 mois, M. Bélair me dit, « Madame Ouimet, vous devriez faire de la radio, vous. » J'ai dit, « Ah bon? » Il dit, « Revenez-moi, dites-moi de quoi vous voulez parler. » Parce qu'il m'aurait donné...
Une chronique.
Une chronique, mais de quelque chose dont je voulais parler, à CKVL à cette époque-là. Je suis revenue le lendemain et je lui ai dit « Je voudrais parler de danse. » Il m'a dit « Wesh! » C'est exactement ce qu'il a dit.
Oui.
Alors, ça s'est arrêté là. Tout ça pour vous dire que la danse, effectivement, je fais le lien. La danse classique et la danse contemporaine actuelle, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il faut aller chercher chacune des personnes. Il faut leur vendre la salade tout le temps. Et donc, je me suis retournée sur mon dixaine et puis je me suis dit, bon, je vais quand même en faire de la radio. Je ne suis peut-être pas assez bonne pour parler de danse et puis qu'on me paye. Je vais aller en radio communautaire. Radio Centre-Ville m'ont invité un jour à aller dans une émission où on parlait de danse. Et j'ai eu une émission Parlons danse pendant... Portrait danse, m'excuse, ça s'appelait Parlons danse au début, Portrait danse pendant 15 ans. Et j'ai fait la promotion de la danse du mieux que j'ai pu et j'ai cessé tout dernièrement parce que maintenant, la place est prise par d'autres animateurs.
Est-ce que tu vas au spectacle de danse?
J'y suis allée pendant des années, oui, des années, des années. J'avais la chance de pouvoir y aller. J'ai vu toute l'évolution de la danse. Est-ce que j'irai? Je vais voir. J'aime bien voir les grands ballets canadiens. J'aime bien voir tout ce que produit Danse Danse. C'est une des producteurs qui font venir du monde entier des bonnes troupes de danse. Je vais voir les ballets jazz, oui. Malheureusement, la danse classique m'a tellement habité longtemps que la danse contemporaine, c'est pas si facile pour moi. C'est pas si facile. Mais il y a du monde qui aime et il y a du monde qui aime pas. Il y a des gens qui détestent la danse classique. Tu vois, ça, c'est chacun son... C'est vraiment deux entités propres, effectivement.
Mais il y a eu une tendance un temps, je pense, au ballet du 20e siècle avec Maurice Béjart. Et à un moment donné, ça explosait de partout.
C'était des danseurs classiques qui dansaient dans sa compagnie. Oui. Et puis ensuite, bon, le style s'est assez peaufiné, le style bon, contemporain, comme on l'a appelé. Et puis ça s'est passé de telle sorte que moi, je le dis toujours, la danse classique te mène partout. C'est comme faire ses gammes, faire de la musique, faire un peu de piano, ça va te mener à peut-être faire autre chose. La danse, une bonne base de danse, que ce soit une bonne base de danse contemporaine ou une bonne base de danse classique, mais classique te mène vraiment dans tous les styles, te permet de faire tous les styles.
Ça donne pas des résultats ou des séquelles sur le corps?
En ce qui me concerne, non. J'ai même pas déformé mes orteils parce que j'ai fait beaucoup de pointes. J'avais les pieds qu'il fallait pour ça, je sais pas. Je me suis fait des séquelles en tombant en ski, mais pas par la danse. Mais je suis beaucoup plus forte que la moyenne des gens, parce que j'ai fait de la danse. J'ai encore une bonne musculature qui me soutient. Et je n'ai rien à dire contre ça.
C'est quoi tes loisirs culturels maintenant?
J'ai beaucoup aimé, évidemment, j'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, avec M. Venn, qui m'a écrit 2 45 tours. Je suis même sortie à Paris, mon disque est sorti à Paris. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les bonnes émissions de télé, j'aime beaucoup le cinéma et la danse, voilà. Pas le théâtre difficile pour moi, certaines pièces, oui.
Pour une femme comme toi qui a fait tellement de choses physiques quand on parle de danse, maintenant tu as 70 ans,
quelque chose comme ça. 71 ans, oui.
Le vieillissement, est-ce que tu l'acceptes facilement ou bien non, tu regimbes?
Là, je commence.
Tu commences quoi?
À regimber. C'est ça que je fais. Oui, là, je trouve j'ai peur de perdre des forces. J'ai toujours eu beaucoup de forces physiques. Alors, mais comme je ne fais plus de danse, que je fais marcher, j'ai enseigné pendant un certain temps. J'ai ouvert une école, un petit cours de danse, j'ai enseigné. Quand j'ai pas un cours que je paye, puis c'est comme pour tout le monde. Tu vas à ton cours, tu payes tes cours, tu y vas, et puis tu le fais. Mais si à la maison, là, faire mon exercice toute seule, ça ne me tente pas. Mais j'ai peur de ça. Quoi qu'on me dise, assez régulièrement, t'as vraiment pas l'air de ton âge. Faut pas que tu t'en fasses. Alors, c'est tout.
C'est vrai, mais tu vieillis quand même. Puis, ce n'est pas t'insulter de te dire que l'aspect très séduisant que t'avais comme danseuse ou Lautrec, c'est plus le même corps, c'est plus la même femme. Est-ce que ça, tu acceptes bien ça, de pas avoir le même indice de séduction comme toutes les femmes, comme tous les hommes en vieillissant?
Je suis contente de plus être quelqu'un qui séduit que par la beauté. Je suis très, très heureuse. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, la personne que je côtoie doit être intelligente, cultivée, éduquée. Ça m'est important.
Non, mais attention, ce que tu viens de me dire, c'est que tu es contente d'être moins séduisante.
Absolument.
Mais donc, ça a été difficile de l'être, séduisante et trop belle?
Oui, parce que c'était toujours ça que les gens me voyaient. Ils me disaient, oui, ben ouais, ben t'es pas mal, t'as du talent, t'es intelligente. Non, c'est pas, oui, c'est ça que j'aurais voulu. T'es capable de faire telle chose. C'est parce que je suis toujours une petite fleur qui a l'air timide et puis qui sait rien faire. À l'inverse de ma sœur, qui était une fonceuse, qui conduit, elle va le faire, mais elle, peut-être pas. Et elle est jolie, par exemple. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas du tout ça. J'ai jamais essayé de séduire personne.
Tu es en train de me dire qu'être jolie ou trop jolie, parfois, dans la vie, ça peut être un handicap?
Absolument. On n'est pas jugé sur la bonne chose. On ne juge pas sur la bonne chose. Il n'y a pas rien que ça dans la vie. Moi, une femme un peu moins belle et puis qui a du cœur, qui est gentille, la gentillesse, la bonté d'âme, la description absolue que je peux, c'est André Lachapelle qui vient de décéder. Et elle était d'une beauté incroyable. Mais c'est une femme, il paraît, fabuleusement bonne, gentille.
Mais t'as pas répondu à ma question comme il faut. Ça peut-tu être un handicap d'être trop belle?
Oui. Oui, parce qu'on te prend pas pour la bonne chose. J'étais acceptée par certaines personnes pour les mauvaises raisons.
Ben écoute, c'est Judith, oui, mais...
c'était pas les bonnes personnes pour moi.
Je vais te souhaiter dans une prochaine vie d'être beaucoup moins jolie. Merci beaucoup.
Merci.
C'était L'Aventure, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, Robert Blondin ici. À la semaine prochaine.